par nous croyons, sans te voir nous croyons, et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Bien, le Seigneur nous appelle à approfondir sans cesse notre foi. C'est dans la foi que s'enracine notre espérance, sûr que tu nous sauves. Et nous l'entendrons, le Seigneur, nous inviter ainsi à cet approfondissement avec les paraboles. Les paraboles. Parabole, il est souvent question, enfin, où il est fortement question de la terre, de la semence. Ce matin, nous avions pris l'hymne « Dieu au-delà de tout créé ». Et il y a ce passage, hein, la deuxième strophe qui m'a frappé. « Toi que nul homme n'a pu voir, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances. » Et puis, troisième strophe. « Toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons. » Parole enfouie là où nous sommes. Parole enfouie là où nous sommes. Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent. Ces mots, là, enfouis dans la terre, ces mots aussi qui parlent aujourd'hui, semés dans l'univers, mais semés en nous, et ils nous façonnent. Alors, raison de plus, si vous voulez, pour faire la prière du jubilé. Je lis simplement, deuxième paragraphe. Père céleste, en ton Fils, Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi, est-il dit, tout d'abord, que ta grâce nous transforme, pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile et faire qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Mais j'allais dire pas indépendamment de nous, que ta grâce nous transforme dans cette attente confiante des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Eh bien, écoutons la parole de Dieu, la parole qui se dit en parabole. C'est en Saint Marc, au chapitre 4, verset 1, 34. Je lis ce passage, et puis je le commente, et ça se terminera par la prière avec un psaume. Tout d'abord, là, juste avant le chapitre 4, arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Jésus leur répond, mais qui sont ma mère et mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Et puis, de nouveau, aussitôt, des mots qui reviennent souvent dans l'évangile de Marc, de nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est ainsi aussi tombé dans un endroit pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé, parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé, et faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et montant et se développant, ils donnaient du fruit. Et ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Mais il leur disait qu'à des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et il leur disait, à vous le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux qui sont dehors, tout devient énigme. En regardant, ils ne voient pas. En entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il leur soit pardonné. Et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ?» L'explication, et après cette explication, je donnerai, si vous voulez, voilà, quelques pistes de méditation, de prière, de réflexion. Jésus explique. Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt, il enlève la parole qui est semée à eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas un nœud de racine. Ils sont les personnes, les hommes d'un moment. Et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses, les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit. 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Pourquoi les paraboles? Je crois que c'est important d'entendre les paraboles quand on parle de l'espérance. Parce que, voilà, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Dès le début de la proclamation, nous l'avons entendu dans l'évangile de Marc, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Mais quel est ce règne de Dieu ? Et à quel signe on reconnaît qu'il s'est approché ? Et Jésus disait, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Nous l'avons entendu, mercredi décembre, on a entendu ces mots. Parabole, c'est une invitation à s'engager dans l'écoute. Écoutez, c'est le chemin à Israël. Entendre quelquefois cette parole d'Israël, Israël, quoi, cette prière du peuple juif. Écoute, écoute, le Seigneur est l'unique Seigneur. C'est l'invitation à s'engager dans l'écoute. Prenez le temps de bien entendre ce que vous venez d'entendre, dit le Christ. Le semeur est sorti pour semer, puis nous connaissons bien ces quatre lieux de chute du grain. Trois échecs, trois échecs, une réussite. Mais le grain, il est tombé au sol. Alors il est question de croissance, de fructification. Première chose, le devenir du grain ne s'accomplit pas sans un passage par la terre. Le Fils de Dieu s'est fait l'un d'entre nous. Dieu n'a pas visité la terre de loin. Dieu s'est fait l'un d'entre nous. La terre, c'est le réel de la vie, le réel de notre vie, le réel du mandat. La terre, notre terre. Prenons du temps, hein. Il en faut aussi pour identifier notre quelque part. D'où es-tu? Qu'est-ce qui caractérise là ton histoire, ton enracinement? Surtout quand on change de lieu, hein, quand on vient de notre pays, d'une autre terre. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours cet enracinement. La parole de Dieu, elle s'est enracinée quelque part. Et là où elle n'est pas enracinée, eh bien, il y a quelque chose là, ah, qui était plein de promesses, mais ça n'a pas tenu. Le devenir du grain ne s'accomplit pas sans un passage par la terre. Et ce qui est porteur de fructification, la parole, eh bien, est semé dans la terre. C'est dans la terre, là, qu'il y a toutes ces conditions de réception, de croissance, de production. Très important. On ne cesse de le découvrir. Alors, la parabole. Oui, c'est une manière de parler, de donner un enseignement. Mais surtout, surtout, une manière d'écouter et d'entendre. Une manière d'écouter et d'entendre. L'écoute. L'écoute, c'est pas un isolement, comme si on était sur une autre planète, dans notre monde. Non. Mais voilà, c'est se rendre attentif à ce que nous sommes, se rendre attentif à ce que Dieu nous dit là où nous sommes. Comment entend ce que le Seigneur nous dit? Lui qui nous dit le mystère du règne de Dieu. Je trouve que c'est important aussi, vous voyez, d'entendre cela dans cette démarche du carême. On se réjouit, et c'est vrai, bon, je l'ai dit déjà, par rapport au nombre de catéchumènes, des gens qui aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il est, s'intéressent, enfin, disent, mais pourquoi vous êtes là? Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en moi qui était comme un désir, là, d'écouter, puis voilà, j'ai vu, j'ai rencontré des chrétiens, et puis il y a d'autres religions aussi, des gens qui s'affirment. Je me suis dit, mais nous, quand même, là, foi chrétienne, tout ce qu'on a reçu, et c'est ce chemin. Mais ce chemin, que vivent les catéchumènes, c'est un chemin aussi d'écoute. Écoute ce que signifie ce que tu vas recevoir. C'est ça les catéchèses aussi, si vous voulez, baptismales. Mais voilà ce qui se passait quand même, et qu'on redécouvre aujourd'hui fortement. C'est que vous savez, on disait à quelqu'un, voilà, tu te prépares au baptême. Quel est le sacrement vraiment là, que tu vas recevoir, cette nouveauté dans ta vie? Mais une fois que tu l'auras reçu, eh bien, tu pourras t'ouvrir au mystère que ça représente. Si vous voulez, c'est comme quelque chose là qui t'est donné, tu as mieux découvert ce que tu allais recevoir, et maintenant, c'est ce que tu as reçu qui, en toi, te donnera le désir, te mettra aussi dans l'attitude pour accueillir ce que tu as reçu, qui œuvre en toi, mais qui travaille pas sans toi. La parole reçue, elle interroge. C'est l'intelligence de la foi. Qu'est-ce que c'est? Comment comprendre? Mais en même temps, c'est de l'intérieur. Vous savez, quand Jésus dit ceux du dehors, ceux du dedans, là, par rapport à ceux qui veulent le voir, qui écoutent et qui dit voilà, c'est ceux qui écoutent ma parole, eux ils sont dedans. Alors, c'est pas une condamnation de la Vierge Marie qui est là, elle qui conservait dans son cœur toutes les paroles. Hein. Mais, voilà, c'est pour dire ceci, c'est à l'intérieur de chacun. C'est pas comme une opposition d'auditoire, dehors-dedans. Il y en a qui sont dedans, et peut-être, quand on se croit dedans, ben peut-être on est plus dehors que l'on ne croyait. Puis des gens qui sont dehors, et qui sont peut-être aussi plus dedans qu'on ne peut le percevoir. C'est pas une opposition d'auditoire, des catégories. Et voilà. Mais là, et ce que nous sommes aussi, parce que nous aussi, nous sommes quelquefois dehors et dedans. Ceux qui regardent sans chercher à voir. Oh, c'est connu, oui. Ceux qui ne sont touchés que de l'extérieur. Ah, c'est un événement. Oh, ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert. Que de l'extérieur. Ils écoutent, on écoute, nous écoutons parfois, sans nous donner le temps de comprendre. Comprendre, oui, c'est l'intelligence de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en même temps, la parole de Dieu, c'est pas simplement qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qui se dit en moi? Quelque chose arrive et fait, comme dit Jésus quand il explique la parabole, qu'il regarde sans voir. Ils ne se laissent pas pénétrer, quoi, par transformer par ce qui leur est donné, là, de vivre, de croire, de recevoir. Les paraboles, c'est pas simplement une manière de parler, des exemples. Non. C'est la façon que Jésus adopte pour nous faire entrer dans le mystère. Quelque chose qui, voilà, qui nous dépasse, qui n'est pas simplement en dehors de nous, qui est en nous. Nous sommes dans le mystère. Le secret des paraboles, c'est un secret à recevoir sans cesse. Alors, là, revenons au terrain, les quatre catégories de terrain. En ayant de l'esprit ceci, vous voyez, c'est... L'accent n'est pas mis sur le sort de la parole qui tombe. La parole de Dieu. Cette parole, eh ben, j'allais dire, elle s'altère pas elle-même, quoi. Mais voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est le devenir de ce terrain sur lequel cette parole tombe. Le long du chemin. Ah, le long du chemin. La parole n'est pas intériorisée. C'est, bon, une parole du dehors. Voilà. Comment nous pouvons être aussi, quelquefois, de cette manière, entre guillemets, auditeur de la parole. Elle n'est pas intériorisée. Le long du chemin. Alors, pas d'avenir. Les pirailles. Ah, le désir est réel. Mais le terrain n'est pas assez profond. Alors, ça fait illusion. Parce que, mais dis donc, c'est rapide quand même, hein. Mais voilà, pas d'avenir. Les gens d'un moment, ils ne résistent pas à l'épreuve de la fidélité. Les pirailles. Les épines. Eh bien, ce que sont les épines? Lorsque la parole est étouffée, alors là, vous savez, Jésus précise, hein. Jésus précise. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, quelles sont ces épines? Qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'épines? Les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises. C'est-à-dire, ces mots que le pape emploie, pape François, d'une façon assez fréquente quand on est auto-référencié, quoi. Bah, dire, c'est, voilà. Moi, ce que je pense, que, et qui ne se laisse pas, j'allais dire, là, évangéliser par la parole elle-même. Le désir d'avoir, le désir d'être. Ça, cela arrive à tous. Hein. Quand, quelquefois on peut trop se glorifier de ce qu'on a pu dire, de ce que, du témoignage qui est donné. Ça avait été prudent aussi, mais c'était pas de la méfiance, hein, autrefois, par rapport aux nouveaux convertis. Hein. On disait, c'est vrai, c'est formidable, mais il faut pas qu'ils portent trop vite l'étendard. Il faut aussi aujourd'hui, je veux dire, mais même dans divers domaines, hein, quand on ne respecte pas assez un devenir, vocation, on dit, ah, oh, on a la vocation. Bon, tous d'abord, on a une vocation, hein, on est appelé par Dieu. Mais j'avoue que moi, supérieur de séminaire, ben, j'ai souffert une fois ou l'autre, hein, quand c'était dans un diocèse, on dit, ah, mais écoutez, il y a des séminaristes, ils étaient en première ou deuxième année, là, on va vous les montrer. Puis quelques années après, on disait, mais il a découvert que ce n'était pas sa vocation. Oh, désastre. Mais non, il y a un respect. Hein. Laissez du temps. Ce n'est pas la méfiance. Hein. Mais voilà, ce qui ne se construit pas dans le temps ne résiste pas au temps. Puis la bonne terre, ben voilà, c'est le fruit de la parole. C'est la parole qui porte du fruit. Parce qu'elle est entendue. Elle est écoutée, voilà, il faut du temps. On entendra à travers d'autres paraboles, le temps de la croissance, chaque chose en son temps, chaque saison qui viendra. Alors après, Jésus encore emploie d'autres paraboles. Mais c'est court, hein. L'autre, il leur disait, par rapport à la lampe. Parabole de la lampe. Est-ce que la lampe arrive pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur son support? Car il n'y a rien de secret qui ne doive être mis au jour, et rien n'a été caché qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait, faites attention à ce que vous entendez. C'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous, et il vous sera donné plus encore, car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. C'est-à-dire que ben, ça ne résistera pas à l'épreuve du temps, à l'épreuve des difficultés. Alors la lampe. La lampe sous le lit ou sur le lampadaire? La lampe aide à voir. Encore faut-il qu'elle soit bien placée. Oui, c'est vrai que le mystère de Dieu est caché, mais il est fait pour se manifester. Non pas comme si c'était à travers nous. Oui, ce sera bien à travers nous, mais à condition que nous laissions passer la lumière. Ce qui est secret dans la parabole n'est pas fait pour rester secret, mais pour éclairer. Et on n'est pas, j'allais dire, témoin de la lumière quand on se prend pour la lumière. C'est très beau, on l'a cité tellement souvent, mais c'était bon, dans une église, quoi, là, pour un temps, bon, découverte, catéchèse. Et puis on parle de la sainteté, c'était bon, environ de la Toussaint. Qu'est-ce qu'un saint? Ah, l'enfant qui lève le doigt, il dit, ah, oh, je sais, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Parce qu'on avait parlé des saints, là, sur les vitraux. Ben voilà, qui laisse passer la lumière. Alors, c'est vrai que c'est éclairant, c'est le cas de le dire, par rapport à ce que nous faisons de la parole de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu, on la creuse, on l'approfondit, on la travaille. Mais quand on la travaille vraiment pour, je sais pas, en témoigner, ben, il y a comme un respect déjà de la parole de Dieu, du livre. Mais c'est vrai, il faut pas idolâtrer le livre non plus. C'est pas quand le prêtre dit acclamons la parole de Dieu, oui, le livre, la parole qu'on vient d'entendre, mais c'est pas un livre qu'on acclame. Parce que aussitôt, ben, ce qui vient, c'est une acclamation du Christ. Mais j'allais dire également aussi, regarde là où toi-même tu te mets là, dans cette situation d'écoute de la parole. La parole de Dieu, surtout quand cette parole est le lieu même de la prière, de notre rencontre avec le Seigneur. Parole de Dieu, là où elle est placée. Oui, c'est une lampe, mais encore faut-il qu'elle soit bien placée. Regardez ce que vous entendez, dit Jésus, regardez ce que vous entendez. C'est-à-dire faisant un objet d'observation profonde, interrogez-vous, ne restez pas au dehors. Avec la mesure avec laquelle vous mesurez, vous serez mesuré. Et puis, il y a encore une parabole qu'on ne trouve que chez saint Marc. Il disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Toute l'énergie, elle est là. Elle est dans la semence elle-même. Ah, mais oui, c'est exigeant, hein. Tout d'abord, il a fallu quand même, là, que la terre l'accueille, un homme qui jette la semence en terre, une fois de plus. Mais alors après, il y a quelque chose qui échappe au vouloir de l'homme, qui échappe au temps aussi où on mesure les choses. Oui, c'est vrai qu'il y a un discernement à faire, à tous ceux qui respectent, quoi, cette terre, ceux qui respectent le temps aussi. C'est très éclairé, si vous voulez, par ce qui est dit dans Sagesse d'un pauvre, à propos de François d'Assise. François trouvait quand même que, ben voilà, surtout une époque où il fallait que l'Évangile soit annoncé, là, dans toute sa pureté, sa clarté, et puis cette fraternité qui était la sienne, enfin, et lui-même d'ailleurs, en disant, quand même, c'est pas évident, hein, pas évident, parce qu'il y avait des frères, ça tire un peu dans tous les sens, ceux qui voulaient ceci, ceux qui voulaient cela. François un peu découragé, puis il en parle à Claire, Claire d'Assise. Et alors, Claire lui dit, mais tu manques de patience, tu manques de patience, François. Alors il dit, oui, c'est vrai, je manque de patience, je ne suis pas assez patient, mon cœur n'est pas assez patient. Mais Claire lui dit, mais tu sais, c'est pas simplement la patience qui te manque. Tu ne peux être patient que de la patience même de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas simplement faire des choses pour être plus patient, mais c'est vivre au rythme du cœur de Dieu. Ah ben, c'est ça. Le rythme des saisons, le rythme de la croissance. D'elle-même produit l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein d'épi. Et alors après, bon, c'est la moisson. Ce sera le travail aussi des moissonneurs. Et puis, la graine de moutarde. À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme une graine de moutarde quand on la sème. Une graine sénévée, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on la semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Oui, il y a là aussi cette vitalité de la semence elle-même qui ne se mesure pas avec des critères humains. Mais regardons quelquefois tout ce qui nous étonne, qui s'est passé alors que vraiment, hein, c'était si petit, mais c'est s'ouvrir au don que Dieu ne cesse de faire. Désirez vraiment, là, ce que le Seigneur désire. Nos désirs sont trop courts, notre espérance est trop courte. Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole. Dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. J'allais dire, C'est ça aussi, la conversation dans l'esprit, hein. Avec la diversité quelquefois des terres, la diversité des moments de croissance, toute cette diversité. Je trouve, hein, je sais pas, moi ça m'éclaire ceci, c'est qu'on se dit, bon, c'est vrai, des partages d'évangiles, c'est très important, hein. Il y a une façon de le vivre, mais je trouve quelquefois on allait un peu vite quand on lit un texte, prend un temps de silence. Bon, qu'est-ce qui... Puis voilà, chacun ou chacune dit. Mais au synode, qu'est-ce qu'on fait? Quand chacun prend le temps, hein, prend le temps de l'écoute de la parole, du silence, chacun se dit. Et puis après, chacun reprend la parole pour dire comment la parole de l'autre, ce qu'a dit l'autre, m'éclaire. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, des perceptions qui sont comme ça, rassemblées les unes avec les autres. C'est quelque chose qui fait qu'il y a une croissance qui s'accomplit. Quand dans la spiritualité ignatienne, on dit qu'il faut sauver la proposition de l'autre. C'est-à-dire que ce que l'autre dit, je m'y retrouve pas tellement, j'essaie de comprendre. Puis quelquefois ça bouscule aussi. Et quelquefois on se dira aussi dans ce groupe, mais enfin, c'est pas bien entendu, moi. C'est vrai qu'on s'explique quand même pour comprendre la parole de Dieu, pour pas la déformer, hein. Mais souvent, il y a plein de choses qui sont dites. Et en particulier la parabole, la parole des pauvres. Et je crois que là, vous entendez, hein, le témoignage de Sœur Solange, hein. Quand je vois ce qui se passe actuellement, en lien d'ailleurs avec les facultés Loyola, à Paris, et c'est un groupe, ou des groupes qui se réunissent aussi, là où je suis, parce qu'il y a des salles, il y a un lieu de tranquillité, et c'est la théologie à partir des pauvres. C'est-à-dire que, bon, ben, il y a des cours qui sont donnés, puis alors après, là, ça a été initié par un jésuite, Étienne Grieux, puis un prêtre du diocèse du Havre, voilà François Audinet, puis d'autres personnes qui travaillent aussi à cela, et des gens qui s'expriment. Voilà. Comment ils reçoivent la parole, comment ils la comprennent, pour recueillir, enfin, cette parole des pauvres. Mais pas simplement pour citer, voilà, ce que les gens disent, mais pour être évangélisé, hein, comme on l'a dit, et comme c'est vrai aussi de le dire, mais pas le comprendre n'importe comment, les pauvres m'ont évangélisé. Voilà. La parabole. Eh bien voilà, c'est le lieu de l'espérance. Voilà. Ben, ces paraboles, essayons là de les entendre, de les laisser la parole de Dieu se dire en nous, comme elle se dit. Et là, je voudrais simplement donner comme ça deux témoignages que j'ai recueillis, quoi, ces temps derniers. Bon, tout d'abord, je pense, et je sais aussi combien tout ce qui touche à l'évangélisation des jeunes, à l'éducation aussi, hein, compte pour vous dans la congrégation, même si on peut être investi différemment, hein, comme dans toutes ces situations aussi, bon, dans l'ordre de la parole. Mais c'est la prière d'une enseignante jeune retraitée. Je me suis dit, ben voilà, quelque chose qui est éclairant. C'est m'a été remis il n'y a pas si longtemps. Une personne qui m'a dit, ah, écoutez, voilà, dans notre groupe, il y a une enseignante jeune retraitée, puis voilà la prière qu'elle nous a partagée. Béni sois-tu, Dieu créateur, qui crée chaque être unique. J'ai eu tant de joie à en faire prendre conscience à mes élèves. Quelle diversité dans la création, quel respect avoir pour chacun. Béni sois-tu, Seigneur, pour le savoir dont tu as doté l'homme. Béni sois-tu pour la transmission de ce savoir qui doit épanouir chaque personnalité, permettre à chacun de découvrir ses talents. Père, je te prie pour que dans ce travail, les jeunes n'aient pas peur de durer dans l'effort. Apprends-leur à devenir responsables. La construction du monde le vaut bien. Christ, le Fils du Père, je te prie pour que l'école permette aux élèves de donner un sens à leur vie, de mettre des priorités pour devenir des adultes libres, heureux d'être et non d'avoir. Esprit Saint, vient mettre en chacun des jeunes l'amour du prochain, dans leurs rencontres avec les camarades de classe et les professeurs, pour qu'ils apprennent à vivre en frères, à se réjouir des différences. Merci Seigneur pour ce beau métier que tu m'as permis d'exercer. Je demande humblement la lumière pour les hommes politiques qui doivent faire des choix, pour les enseignements, pour les enseignants, en particulier pour ceux, et elle dit où c'est quelque part dans l'Essonne et dans un lieu qui est très difficile. Afin que les jeunes professeurs gardent flamme et enthousiasme malgré les difficultés, nos jeunes d'aujourd'hui en valent bien la peine. Ben voilà, comment la parole de Dieu, entendue, ben voilà, elle transforme une vie et donne d'être témoin quoi, d'une lumière. Et puis l'autre, c'est quelque chose d'assez tragique. Hein. C'est dans une famille vraiment... Bon, père et la mère, pourtant, c'est vrai, ils ont essayé de donner le meilleur, mais alors après, c'est parti un peu dans tous les sens. Hein. Et c'est une prière, comme ça, qui a été faite pour le synode. Seigneur, à l'heure où ton Église nous invite à réfléchir sur le moyen de faire route ensemble, avec nos différences, nos richesses et nos limites, en Église, entendre le message de l'Évangile, que ton Esprit nous donne l'ouverture de cœur et d'esprit pour écouter chacun avec bienveillance, y compris ceux qui ne pensent pas comme nous. Le discernement pour nous attacher à l'essentiel, Jésus et l'Évangile. L'humilité pour ne pas croire que nous détenons toute la vérité. Le courage de secouer nos habitudes, nourries du passé, pour inventer demain. La confiance pour nous mettre en route, sûr que tu nous accompagnes inlassablement. La lucidité pour te reconnaître là où tu es. La lucidité pour te reconnaître là où tu es. Voilà le mystère que Jésus donne ainsi à percevoir dont il nous fait témoin, là, dans les paraboles. Le ciel, la terre. Ben, le psaume, c'est-à-dire c'est un peu tous les psaumes, en définitive. On a que l'embarras du choix, mais quelquefois, moi, il y en a un que j'aime bien, parce que c'est l'attente du salut qui vient. C'est le psaume 84 ou 85, mardi 3 au matin. Ah, toujours pareil, mais là, en italique, c'est pas un mot, l'évangile, c'est la citation, hein, voilà, quelqu'un qui a marqué profondément ça, hein, ces étapes hein, de la vie de l'Église, l'étape patristique, Origène. Par le Sauveur tombé en terre, Dieu a béni sa terre. L'espérance. La semence tombée en terre, le Sauveur tombé en terre. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi, voilà l'espérance, n'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix. Pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Sa gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Le juste marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voilà comment la parole de Dieu devient prière. Ben là aussi, que la parole de Dieu, que les paraboles deviennent prières. On se reconnaîtra peut-être, oui, dans ces terrains que le Seigneur évoque par rapport à la semence, hein. Dire ma vie. Ben, quelquefois aussi, c'est vrai, il y a un peu la diversité des terrains, quelquefois un peu la succession aussi, hein, de ce qu'il y a dans nos vies, de couches un peu différentes, quoi, de terre et de rochers et d'épines. Voilà. Se reconnaître. Mais se reconnaître, c'est pas uniquement, j'allais dire, voilà, les yeux collés sur ce que l'on est. C'est toujours dans ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Dans tout ce que j'espère, eh bien, il y a quelque chose de bon. Parce que ce que j'espère, c'est à partir de ce que je suis. Je suis de ce monde, de cette terre, je suis de cette génération, je suis dans cette communauté, je vis. Voilà, c'est là. C'est là. Eh bien, là, Seigneur, toi, tu veux et tu es présent et donne-moi dans ta lumière de savoir aussi où mettre la lumière. Alors, quelquefois, ce sera qu'une lampe vacillante. Mais une petite lampe vacillante peut soulever le lourd manteau de la nuit. C'était quelque chose qui me reste toujours dans l'esprit. C'était les Journées mondiales de la jeunesse. C'était à Toronto. Alors, c'est vrai, j'avais eu la chance, quand j'étais supérieur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, là, accueilli les évêques, hein, et le pape Jean-Paul II, hein, le sportif de Dieu, comme disait cardinal Marty, vous savez, Parc des Princes, bon, 80. Puis après, 2002, un pape qui avait du mal à se déplacer, qui était là. Et puis, voilà, il avait dit ça, justement, là, dans une parole qu'il avait adressée aux jeunes, quoi. Même une petite lumière vacillante peut soulever le lourd manteau de la nuit. Et je me disais, bon, il le dit pour d'autres, mais c'est lui-même qui est devenu comme cette petite lumière vacillante. Alors quelquefois, c'est vrai aussi, dans les communautés chrétiennes, dans une communauté religieuse, dans toutes nos communautés de vie. Quelquefois, on se dit, malheureusement, il y a ces lumières vacillantes, mais qui soulèvent le lourd manteau de la nuit, parce qu'elles brillent aussi dans la nuit, dans un moment, dans des situations difficiles, puis aussi par rapport à toutes les communautés qu'on peut vivre, les communautés chrétiennes. Je pense souvent, vous savez, dans le rural ou ailleurs aussi, communauté, bon, un peu de monde, on dit, mais oui, mais on empêche, hein, qu'il y a là quelque chose qui est là, hein, parabole, mais le grain se met en terre, quelque chose qui est de l'ordre du témoignage. Alors, c'est ça l'espérance. L'espérance, elle n'est pas simplement l'espérance à travers, bon, des moments, il en faut, il faut des temps forts, hein. Mais elle est faite dans, comme il est dit, là, et je citais cela parce que, bon, c'est mère fondatrice, là, c'est quand l'humilité devient prière, quand la charité, voilà, se donne sans s'épuiser. Pour l'Eucharistie, là, ce soir, j'ai pensé,